Bonsoir, entrons ensemble dans un temps du débat consacré au débat justement sur l'état de droit en Europe. À l'ordre du jour ce soir, état de droit, la Hongrie et la Pologne menacent-elles la solidarité européenne? Pendant que nous avions les yeux braqués sur les résultats des élections présidentielles outre-Atlantique, une partie diplomatique intra-européenne se déroulait à bas bruit. Elle vient, a priori, dans une première phase, de se régler au grand désespoir de Varsovie et de Budapest. Le Parlement et les États de l'Union européenne ont conclu ce jeudi un accord pour intégrer un mécanisme inédit qui conditionne l'attribution de financements européens au respect des principes de l'état de droit. Mais quels sont ces principes de l'état de droit contestés entre autres par la Hongrie et la Pologne qui menacent en retour d'opposer leur veto au budget européen de plus de 1000 milliards d'euros, le budget de relance? Ces principes, nous allons en parler avec nos trois invités, avec Max Erwan Gastineau, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes essayiste, vous êtes contributeur au Figaro Vox et auteur au CERF, aux éditions du CERF, l'année dernière, du nouveau procès de l'Est. Avec nous également, Roman Krakowski, bonsoir. Vous êtes maître de conférence à l'Université de Genève et auteur du Populisme en Europe centrale et orientale, un avertissement pour le monde dans la collection Fayard Histoire. Et enfin, notre dernier invité de ce soir, Gianni Buchiccio, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes président de la Commission de Venise, vous nous expliquerez dans un instant ce dont il s'agit.
Volontiers.
Dans le cortège, Ania, une étudiante de 24 ans, se réjouit du recul du gouvernement. Pour la jeune femme, le parti au pouvoir a été pris de court face à la mobilisation.
Je pense que le gouvernement ne sait pas quoi faire parce qu'il ne s'attendait pas à quelque chose comme cela. C'est un bon signe, vraiment, cela me donne de l'espoir. Et j'espère que ce gouvernement va nous parler pour trouver un compromis qui cette fois va satisfaire la plupart des gens, et pas seulement certains croyants.
Depuis le début des manifestations, le parti Droit et Justice au pouvoir a perdu 10 points de popularité dans les enquêtes d'opinion, de quoi pousser le gouvernement à chercher une solution à la crise. Mais Alexandra, une jeune manifestante, reste méfiante.
Ils ont fait quelque chose comme ça déjà, en ce qui concerne les autres décisions assez controversées. Je suppose qu'ils ont peur et ils pensent que tout le monde va oublier et voter encore une fois pour eux. Et non, maintenant c'est un type de révolution.
Et les revendications maintenant dépassaient la seule question du droit à l'avortement. Beaucoup de manifestants demandent le départ du gouvernement, l'indépendance de la justice ou encore une réforme de l'éducation.
C'était un reportage de Sarah Bakaloglou, la correspondante de Radio France à Varsovie, lors des manifestations qui se félicitaient du fait que, avant-hier, le gouvernement polonais avait décidé de suspendre la décision du tribunal constitutionnel qui voulait restreindre l'accès à l'avortement pour les femmes en Pologne. Et vous l'avez sûrement vu sur les antennes et entendu sur nos antennes également. Et de très nombreuses et très vives manifestations se sont déroulées donc en Pologne, dans toutes les villes de Pologne, autour de ces questions. Justement de la restriction du droit à l'avortement, mais on entendait aussi que les manifestants et les manifestantes souhaitaient plus que cette question de retrait de cette décision du tribunal constitutionnel et en particulier s'intéresser aux questions de qu'on appelle l'état de droit. Cet état de droit, il est difficile à définir. J'imagine que c'est votre travail, Gianni Buchiccio, que de le faire à la commission de Venise. Cette commission de Venise a été instaurée au début des années 1990 et elle a pour objet de réfléchir au sein du Conseil de l'Europe, mais donc avec pas simplement les pays de l'Europe en tant qu'Union européenne, de réfléchir à la notion d'état de droit. Comment faites-vous pour décider de ce qui rentre ou ce qui ne rentre pas dans l'état de droit en Europe? Gianni Buchiccio? Je crois qu'on vous a momentanément perdu, Gianni Buchiccio. Cette question d'état de droit, en tous les cas, elle est en discussion entre les intellectuels, mais également les gouvernements d'Europe centrale et orientale et les gouvernements d'Europe occidentale au sein même de l'Union européenne. C'est une grande question qui se pose, par exemple, Max et Roman Gastineau et Roman Krakowski, et qui d'ailleurs fait que vous n'êtes pas forcément d'accord sur cet usage de l'état de droit pour pouvoir distinguer telle ou telle démocratie à l'intérieur de l'Union européenne. Max et Roman Gastineau.
Oui, écoutez, je crois que la notion d'état de droit est à la fois une notion fondamentale et une notion difficile à saisir. Pourtant, nous la brandissons comme un étendard. Je crois que nous devrions essayer de complexifier notre rapport à cette notion qui ne fait pas l'objet d'un consensus, que ce soit entre les États, mais aussi entre juristes. Au cœur de mon travail, hein, qui m'a amené à publier ce livre intitulé donc Le Nouveau Procès de l'Est, j'ai cherché à comprendre justement comment pouvions-nous définir l'état de droit. Et il y a un rapport assez intéressant qui a été publié par l'Assemblée nationale française en 2018, qui essaye de donner une substance à cette notion, encore une fois fondamentale, mais difficile à saisir. Et dans ce rapport, il y a une définition que je crois très intéressante et qui est au cœur en fait de notre débat, qui consiste à dire « L'état de droit vise à ouvrir, je cite, l'espace le plus grand possible aux libertés individuelles. Mmh. » Et là, je crois qu'il y a deux termes qui me semblent absolument fondamentaux dans cette définition. Il y a tout d'abord la notion de libertés individuelles. En effet, nous sommes dans des régimes démocratiques et nous tenons à un certain nombre de libertés individuelles qui sont consacrées dans nos constitutions et même parfois étendues sous l'effet de la jurisprudence des cours. La question que posent au fond les conservateurs d'Europe centrale, c'est une question idéologique, puisque, disent-ils, il n'y a pas que des valeurs individuelles, il y a aussi des valeurs collectives qui sont le produit d'un héritage historique, un certain nombre de traditions spirituelles et nationales qui doivent être, elles aussi, protégées. Et le paradoxe, mais cela est rarement présenté ainsi, protégées en quelque sorte par l'état de droit, puisque si l'on regarde la nouvelle loi fondamentale hongroise mise en place en 2012, ces références historiques qui renvoient au christianisme, à une certaine définition de la famille, sont inscrites dans la Constitution. Mmh. Et donc il revient au juge constitutionnel de veiller au respect de ces principes fondamentaux. Donc les principes fondamentaux ne sont pas simplement individuels, ils sont aussi collectif, il renvoie à des références nationales.
Oui, c'est ça. Et quand on dit collectif, on dit national, Roman Krakowski, et très rapidement, eh bien, on se dit, il y a d'autres questions derrière cette question du national, la question du patriotisme, certes, mais également la question du nationalisme, voire un nationalisme parfois exacerbé. Dans votre livre, Roman Krakowski, que vous avez consacré à la question du populisme en Europe centrale et orientale, paru l'année dernière, il y a un chapitre qui s'intitule « Le national d'abord ».
Oui, effectivement, la notion de l'état de droit, elle est complexe, mais pour rebondir sur ce que Max Ervangastino vient de dire, j'ajouterais que l'état de droit, en fait, c'est un cadre qui dont l'objectif est de donner à chaque individu ou chaque acteur dans l'espace public, que ce soit moi en tant qu'individu, vous en tant qu'institution, l'État, un parti politique, un ministère, de s'exprimer dans l'espace public comme si on était parfaitement égaux, même si en réalité on ne l'est pas. Mm-hmm. Et l'État de droit est justement là pour assurer à chacun l'égalité de
traitement,
de parole, la liberté d'expression, et de contribuer à travers cette liberté de parole à la construction de la notion d'intérêt général. Donc l'état de droit, c'est, pour le dire rapidement, un cadre qui dans lequel le droit, la loi, s'applique à tous de la même façon, peu importe si vous êtes un État, un individu ou un parti politique.
Mais
c'est justement ce principe de l'état de droit qui est questionné, comme Max Ervangastino vient de le dire, par ce qu'on appelle les démocraties libérales. Je ferai peut-être une différence entre la Pologne, qui est plus un régime conservateur de droite, même s'il se radicalise depuis quelque temps, et la Hongrie qui à mon avis relève d'une mécanique et d'une logique un peu différente, qui propose quelque chose de radicalement nouveau.
On en discutera d'ailleurs de cette différence entre Pologne et Hongrie un peu plus tard, mais je voulais redonner la parole à Gianni Bricchio. Vous êtes avec nous, vous êtes président de cette commission de Venise, qui est une émanation du Conseil de l'Europe, dont on a d'ailleurs célébré hier, ça a été tout à fait discret malheureusement, les 70 ans de la Déclaration européenne des droits de l'homme, qui est un moment très important, qui a été voulu par le Conseil de l'Europe donc en 1950. Et évidemment, on se dit, quand on voit ce moment particulier, eh bien, c'est un moment important, mais cela ne définit pas forcément quelles sont les valeurs qui entrent dans cet état de droit. C'est votre travail que de le faire à la Commission de Venise ?
Exactement. J'espère que vous m'entendez.
Tout à fait bien.
Très bien, parfait, parce que j'ai eu un incident technique tout à l'heure. Bien, donc, d'abord, pour la Commission de Venise, c'est un surnom, effectivement. Le vrai nom, c'est Commission européenne pour la démocratie par le droit. Elle a été surnommée, depuis plus ou moins sa création, il y a 30 ans, comme Commission de Venise, parce que ses sessions plénières se tiennent à Venise, étant donné que l'initiative pour la création de cette commission avait été prise par les autorités italiennes en 1990, tout de suite après la chute du mur de Berlin. Elle est une institution du Conseil de l'Europe, Conseil de l'Europe qui, comme vous le savez, comprend 47 États membres, inclus les 27 de l'Union européenne, plus tous les autres États européens, sauf la Biélorussie. Et l'activité principale de cette commission est de donner des avis sur des questions juridiques importantes, notamment en matière de réforme constitutionnelle ou d'autres législations fondamentales, je dirais, toujours dans le domaine du droit public. Ces avis sont préparés par les membres de la commission, qui sont des experts indépendants, des éminents juristes nommés par les États membres et inamovibles jusqu'à la fin de leur mandat qui est de 4 ans mais qui peut être renouvelé. La commission s'est étendue beaucoup, donc elle regroupe non seulement les 47 États membres du Conseil d'Europe, mais actuellement elle a 62 États membres de tous les continents sauf l'Australie.
Ce qui est intéressant, Gianni Bucciccio, quand on vous écoute et quand on lit les documents de cette commission dite de Commission de Venise, la Commission européenne pour la démocratie par le droit, c'est que vous affirmez que la liste des critères de l'état de droit est une liste qui n'est pas exhaustive et que c'est une liste évolutive. Et ce que nous disait à l'instant même Max Erwan Gastineau, qui était cette idée que, eh bien, c'était, on gagnait les droits très régulièrement à chaque année, chaque génération. Montre aussi qu'il y a peut-être moins d'entente sur ce que doivent être les critères de cet état de droit. Et c'est sur ces critères-là, d'ailleurs, que des pays comme la Pologne ou la Hongrie contestent cette façon qu'ont les autres pays européens de brandir l'état de droit contre des réformes qu'ils font dans leur propre pays, Gianni Bucciccio.
Effectivement. Donc, d'abord, je voudrais dire, et peut-être vous l'avez découvert tout seul, que cette notion d'état de droit, c'est une notion assez impénétrable. Qu'est-ce que c'est l'état de droit ? Vous ne savez pas, moi non plus. D'ailleurs, la Commission a évité de donner une définition précise de l'état de droit. Il y en a eu plusieurs. D'ailleurs, à commencer par Platon, on va dire. Mais nous avons préféré avoir une approche plus pragmatique. Au lieu de définir ce que c'est l'état de droit ou la prééminence du droit, parce que d'ailleurs la notion même diffère d'un pays à l'autre, et notamment dans les pays de l'Est, notamment dans la Fédération, dans l'Union soviétique de l'époque, c'était la primauté des lois et non pas la prééminence du droit, qui est une notion complètement contraire à l'esprit même de l'état de droit. Donc, approche pragmatique, nous avons défini les critères qui font partie de cet état de droit, et notamment la légalité, la sécurité juridique, la protection de l'abus de pouvoir, l'égalité devant la loi et la non-discrimination, ainsi que l'accès à la justice. Donc, ces 5 critères fondamentaux ont des sous-rubriques en quelque sorte, et donc couvrent tout le spectre de ce qui est et doit être l'état de droit. Comme vous l'avez dit, ce n'est pas une liste exhaustive. parce que il y a une évolution sociale, une évolution juridique, etc. Par exemple, actuellement, on rediscute de nouveau sur les critères concernant les conseils supérieurs de la magistrature. On en parle à l'Espagne.
Sur la question de l'indépendance de la justice, on va en parler dans un instant. Je vous interromps, Gianni Buchiccio, justement, pour donner la parole à nos deux autres invités, Max Erwan Gastino et Roman Krakowski. Max Erwan Gastino, quand on interroge, par exemple, quelqu'un qui est très proche de Viktor Orban en Hongrie, qui s'appelle Miklós Szanto, il est directeur du Centre des libertés fondamentales de Budapest, il dit l'état de droit en tant que catégorie juridique normative n'existe pas, il est utilisé pour punir ceux qui rejettent le multiculturalisme, l'immoralité sexuelle et une culture se glorifiant dans la mort. Donc on voit bien effectivement qu'il y a là des différences d'appréciation, c'est le moins qu'on puisse dire, entre, disons, Bruxelles, même la commission de Venise venant de ce Conseil de l'Europe, le Parlement européen qui est très à cheval sur la notion des droits de l'homme en particulier, et certains des pays, justement, d'Europe centrale et orientale, dont on parle aujourd'hui à l'occasion de ces discussions autour du budget européen qui prennent en compte, désormais, visiblement, la question de l'état de droit. Max Erwan Gastino.
Oui, tout à fait. Je crois que ça vient d'être dit, c'est absolument fondamental. L'état de droit n'est pas un cadre, c'est une notion dynamique. Et donc, vous avez différents acteurs intéressés qui, derrière cette notion, évidemment, d'état de droit, vont essayer de faire avancer leur agenda politique. Et sur les questions sociétales, il est évident qu'à partir du moment où une notion comme celle de non-discrimination fait partie, j'allais dire, du package, vous allez avoir un certain nombre d'acteurs qui, au nom de l'état de droit, vont justifier la mise en œuvre de réformes sociétales pouvant aller jusqu'à la mise en œuvre, par exemple, du mariage homosexuel.
Oui, c'est la question des droits des LGBT, par exemple, qui est souvent affirmée et qui est très contredit, par exemple, par le gouvernement conservateur polonais.
Tout à fait. Donc, vous avez des orientations sociétales qui sont celles de la société, qui ont été consacrées à travers des élections. Et puis, vous avez une notion d'état de droit qui est utilisée pour mettre à l'agenda un certain nombre de thématiques qui n'ont pas été validées par, je dirais, le suffrage populaire, puisque les majorités conservatrices qui sont au pouvoir en Pologne et en Hongrie ont été, je dirais, très très claires hein, sur ce type de questions. Donc derrière la notion d'état de droit, vous avez au fond un conflit, non entre ceux qui respectent l'état de droit et ceux qui le violent, mais entre différentes philosophies politiques. Et je crois que c'est ce débat qu'il faut avoir plutôt que de savoir qui respecte ou non l'état de droit.
Roman Krakowski.
Je note d'ailleurs.
Oui, Roman Krakowski sur ces questions justement d'état de droit et comment justement des pays comme la Pologne, comme la Hongrie et d'autres pays d'Europe s'en emparent justement pour pouvoir dire eh bien nous sommes chez nous, nous avons le droit de faire ce que nous voulons parce que le pouvoir suprême c'est le pouvoir du vote et ce qui est décidé à Bruxelles dans ces arcanes européennes n'a pas grand chose à voir à ce pourquoi nous sommes arrivés au pouvoir d'une certaine façon.
Oui, je pense que ce qui est important, c'est de comprendre comment on en arrive en Pologne ou en Hongrie ou dans des démocraties libérales de manière plus large à contester cette notion de l'état de droit. On voit qu'il n'y a pas de consensus sur la notion même. Mais je pense que c'est les raisons de remise en question qui sont intéressantes à analyser. Et je pense que ce qui se passe en Europe centrale depuis les années 90 peut nous donner quelques indications et la manière dont les débats se déroulent, où on a parlé tout à l'heure des droits LGBT, donc on pourrait ajouter à cela les réformes de l'accès à l'IVG en Pologne actuellement, renvoie à une forme de dichotomie fondamentale qui est souvent une grille de lecture des gouvernements populistes ou libéraux et qui renvoie à un rapport à la globalisation. Donc ces pays ont été pendant très longtemps sont restés pendant très longtemps à l'écart de la globalisation, que ce soit dans le cadre des empires austro-hongrois ou des empires centraux au XIXe siècle. Et les deux expériences de la globalisation qui étaient assez malheureuses, c'était celle de la nouvelle Europe allemande, l'intégration dans un ensemble un peu plus large, ou dans le bloc soviétique. Et avec la chute du communisme à la fin des années 80, ces pays se retrouvent de nouveau projetés dans un monde globalisé qui s'accompagne de l'introduction d'un libéralisme, mais c'est pas un libéralisme un peu à l'européenne, je veux dire occidentale comme qu'on est en France avec un système de protection sociale assez développé, ou même en Allemagne, mais plutôt anglo-saxon, voire américain, avec une réduction de l'État, l'État-providence au strict minimum, et qui a provoqué dans les années 90 à la fois une crise économique, un creusement des inégalités sociales, et une crise démographique qui existait déjà là avant 89, mais qui s'est encore creusée. On ne le rappelle pas suffisamment, mais ces pays ont perdu depuis les années 90 entre 15-20% de la population pour certains, comme la Bulgarie ou la Roumanie. Et les projections de la Banque mondiale ou de l'OCDE sont assez catastrophiques pour les 5, pour les 25 années à venir. La Bulgarie devrait perdre encore 23% de la population. Donc entre 89 et 2050, donc en 60 ans, le pays aura perdu quasiment la moitié de la population. Donc, si on regarde les choses dans la longue durée, on peut peut-être un peu mieux ou plus facilement comprendre les peurs pour l'existence de la nation ou de la communauté nationale qui monte dans ces pays dans les années 2000 et dont les démocraties libérales proposent une voie de sortie par le national d'abord. Et ce national d'abord, il passe par la remise en question de l'état de droit, parce que pour renforcer la communauté nationale, il faut renforcer l'État, qui est le défenseur de cette communauté. Et donc, s'en prendre à ce qu'on appelle des contre-pouvoirs, donc tout ce système dont on a parlé tout à l'heure, qui est assez subtil, de check and balances en anglais, et qui, en gros, repose sur l'idée qu'un pouvoir empiète sur le périmètre d'un autre pouvoir, et de cet équilibre des pouvoirs sort un système qui permet à chacun de s'exprimer.
Et ce dont ne veut pas, justement, par exemple, Viktor Orban en Hongrie, ou qui est remis en cause par Jarosław Kaczyński en Pologne quand il parle de l'impossibilisme légal des Européens contre le champ politique qu'il défend, lui, en disant « nous avons été élus et nous avons donc le droit de faire ce que nous voulons ». On discute de cette question, justement, de la Hongrie, de la Pologne, dans la menace qu'elles font porter sur la solidarité européenne à l'occasion du plan de relance. On va en reparler tout de suite après cet extrait d'un morceau sonore de la Hongrie qui n'était pas celle de Viktor Orban, mais celle de Janos Kadar, un morceau des années 1970. Vous écoutez Le Temps du Débat.
France Culture. Le temps du débat. Emmanuel Laurentin.
Un extrait de l'album « Si je pouvais être un garçon » de Zsarolta Zalatné, donc en 1970 en Hongrie. Nous sommes avec nos trois invités, Max Erwan Gastineau, auteur du Nouveau Procès de l'Est au CERF, Roman Krakowski, auteur de « Le populisme en Europe centrale et orientale » chez Fayard, et Gianni Buchiccio, qui préside la Commission de Venise, dont on a expliqué qu'elle était issue du Conseil de l'Europe et qu'elle tentait justement de donner des conseils à bien des États, et pas simplement les États européens, sur la question de ce qu'était un État de droit avec des notions fortement évolutives. Est-ce que cet État de droit est possible dans ce que Viktor Orban appelait lui-même une démocratie illibérale, Gianni Buchiccio?
Je crois que oui, absolument oui. Démocratie libérale, effectivement, c'est une invention, je dirais pas de Orban, parce que apparemment cette notion, cette définition existe depuis 1997 et avait été inventé par un certain Fareed Zakaria. Actuellement, effectivement, cette démocratie libérale a pris plus de substance et on commence à mieux la comprendre. Mais je voudrais revenir sur la question de l'état de droit. L'état de droit, c'est une chose simple, au fond, hein, parce que personne ne peut contredire que le principe de la légalité doit être respecté, qu'il ne faut pas qu'il y ait l'abus de pouvoir, ou qu'on ne doive pas lutter contre la corruption, par exemple. Donc tout le monde accepte ces principes, l'indépendance judiciaire, qui est un phare pour l'état de droit.
Mais pourtant, dans cette négociation entre le Parlement, les États de l'Union européenne et les pays européens, en particulier la Hongrie et la Pologne, eh bien, Hongrie et Pologne ont fait bloc avec d'ailleurs d'autres pays européens pour contester l'idée que les financements européens seraient liés au respect de ces principes de l'état de droit, en particulier l'indépendance de la justice et la liberté de la presse, Gianni Buchiccio.
Oui, tout à fait vrai. C'est une question d'interprétation. N'est-ce pas? Les concepts sont clairs, mais ils sont interprétés d'une façon différente dans certains pays. Et je dois dire que c'est pas seulement le cas de la Pologne et de la Hongrie, même dans d'autres pays d'Europe occidentale, il y a quand même des violations pas si importantes de l'état de droit. C'est pour ça que la Commission européenne a lancé ce nouveau mécanisme pour l'état de droit avec un rapport annuel. D'ailleurs, le premier rapport de cette série a été présenté il y a quelques semaines par la Commission et il traite la situation de l'état de droit, le respect de l'état de droit dans tous les pays de l'Union européenne. Cette initiative est une réponse à la question justement qui était difficile à résoudre, c'est-à-dire la violation de l'état de droit et les sanctions européennes, notamment l'utilisation de l'article 7 des traités, qui est aussi dit comme l'option nucléaire, c'est-à-dire la privation des droits de vote pour les États qui ne respectent pas l'état de droit. Donc il y a ce nouveau mécanisme qui s'ajoute d'ailleurs aux initiatives de la Commission qui porte certains États devant la Cour de justice de Luxembourg, qui peut en quelque sorte faire en sorte que les États qui violent l'état de droit puissent le respecter.
C'est une vraie question, Max Erwan Gastineau, parce que dans la dépêche qui a été donnée cet après-midi par l'AFP autour de cette discussion entre le Parlement, les États de l'Union européenne, le plan de relance européen qui pourrait être bloqué par la Hongrie et la Pologne, puisqu'on exige ce respect de l'état de droit désormais pour obtenir des financements, eh bien, il y a par exemple le vice-ministre polonais Janusz Kowalski qui dit « Veto ou la mort, c'est le mot d'ordre symbole de la défense de la souveraineté polonaise face aux ambitions non démocratiques et idéologiques des eurocrates. » Et Budapest dénonce un chantage politique et idéologique, Max Erwan Gastineau et Roman Krakowski. Max Erwan Gastineau.
Oui, écoutez, je crois que le problème, en effet, c'est à partir de quoi va-t-on définir l'état de droit ? Vous avez une définition dans l'article 2 du traité de l'Union européenne qui liste un ensemble de valeurs à partir desquelles nous estimons la conformité d'un régime au respect de l'état de droit. Et ces valeurs sont des valeurs absolument centrales et qui n'ont pas de contenu juridique. Donc vous donnez une marge d'interprétation très forte à des acteurs politiques et à des cours de justice qui peut tordre le bras à des États souverainement élus. Ce que je voulais ajouter, c'est que vous n'avez pas une opposition entre l'état de droit et la souveraineté du peuple au sein du modèle hongrois. Il y a une Cour suprême indépendante qui fonctionne. La question qu'a posé au fond Viktor Orban et les illibéraux en Hongrie était de dire, est-ce que la Cour de justice, est-ce que la Cour suprême doit interpréter le droit selon une vision assez subjective du droit ou doit-elle se conformer à la lettre constitutionnelle ? Vous avez au fond un débat que vous retrouvez aussi aux États-Unis actuellement entre ce qu'on appelle les originalistes.
On en a parlé hier dans notre émission, oui, vous avez raison. Ceux qui veulent revenir à la constitution d'origine, d'une certaine façon, américaine.
Tout à fait. Donc, s'en tenir à la lettre constitutionnelle, donc telle qu'elle a été mise en place en 2012 en Hongrie, ou alors est-ce que nous donnons un pouvoir d'interprétation aux juges qui viennent ligoter la capacité d'action du politique et obtenir un certain monopole sur la définition des valeurs de la société ? C'est la question qui est posée. Et nous l'avons aujourd'hui aussi en France, où nous voyons bien que au nom de l'état de droit, la capacité d'action du politique a été réduite à portions congrues sur le terrain notamment de l'immigration, ouais, qui se pose de fait, du fait des événements qui ont cours.
Roman Krakowski, tout de même, on sent une véritable tension entre les pays de l'Union européenne autour de cette question-là. On sait que Vera Jourova, la vice-présidente de la Commission européenne, avait déclaré au journal Der Spiegel que la démocratie hongroise était une démocratie malade. Je viens de donner les tweets et les réactions justement à cette question entre les pays de l'Europe, de l'Ouest en particulier, le Parlement européen qui est très à cheval sur ces questions d'état de droit et de droits de l'homme en particulier, et les démocraties que sont la Hongrie et la Pologne. Et on se dit, mais est-ce qu'ils vont véritablement bloquer le plan de relance européen? On attend, tous les pays européens attendent le déblocage de ces fonds. Est-ce qu'ils vont véritablement les bloquer, Roman Krakowski? Qu'est-ce que vous pensez justement de ce bras de fer entre état de droit d'un côté et volonté de défendre sa nation de l'autre?
Oui, effectivement, c'est une tension entre le principe de liberté et le principe de communauté. Pour les démocraties libérales, c'est la communauté qui l'emporte.
Les démocraties illibérales, je précise, mais c'est ça.
Oui. Illibérales, pardon. Oui. Pardon. Et au nom de la défense de la communauté, on a le droit de ne pas respecter certaines libertés, ne pas respecter donc cette notion de l'état de droit.
Mais aussi de museler l'opposition, comme le fait par exemple parfois le régime de Monsieur Orban, avec tout un tas d'auteurs, de metteurs en scène qui manifestent pour la fermeture de l'université de théâtre et de cinéma de Budapest, par exemple, ou la fermeture de l'Académie hongroise des sciences. On voit bien aussi qu'il y a aussi des décisions qui sont prises, ou comme d'ailleurs pour la Cour constitutionnelle polonaise à propos de la question de l'avortement, Roman Krakowski. C'est pas simplement des paroles en l'air, il y a des faits effectivement qui peuvent dire que l'état de droit ne fonctionne pas parfaitement bien, tel qu'on l'imagine en tout cas en Europe occidentale.
Oui, absolument. Et puis l'Union européenne a publié fin septembre, je pense que c'était le 30 septembre, un rapport sur l'état de droit dans l'Union, où la Pologne et la Hongrie ont été pointées du doigt. On a dit tout à l'heure que la Cour suprême hongroise était indépendante. Max Ervin Gastine l'a dit. Je pense que c'est pas tout à fait vrai. On voit depuis plusieurs années une volonté du pouvoir en place, que ce soit en Pologne ou en Hongrie, par les moyens constitutionnels, c'est-à-dire par la modification de la loi, puisqu'ils ont une majorité confortable au Parlement, de modifier la Constitution, modifier la loi, de mettre en place des procédures pour la nomination des juges, des dirigeants, des instances chargées du contrôle des médias, etc., de la liberté de la presse. Et fin septembre, 28 septembre, on a nommé à la direction de la Cour suprême justement un juriste qui n'est même pas magistrat et qui est quelqu'un de très proche du pouvoir. Donc cette notion de l'indépendance des institutions, de ces contre-pouvoirs que sont la justice ou même les médias, elle est justement à questionner. Donc mais je voulais surtout souligner en fait les effets, parce qu'on discute de la notion de l'état de droit, mais et Max Ervin Gastineau considère dans son ouvrage, qui par certains aspects est très intéressant, mais par d'autres il m'a beaucoup interrogé sur l'opportunité que présenteraient les démocraties libérales pour renouveler la démocratie. Or, ce qu'on voit en Pologne et en Hongrie aujourd'hui, c'est exactement le contraire, c'est-à-dire que en s'attaquant à des institutions comme la Cour suprême ou les institutions qui contrôlent l'indépendance des médias, on s'attaque à la machine démocratique, au cœur de la machine démocratique, qui sont justement ce système de check and balances, et qui finissent par produire un acteur hégémonique, un État qui finit par être doté de pouvoirs suffisamment large pour imposer sa façon de voir, de penser, de sa vérité, et on le voit très bien aussi dans le paysage médiatique, que ce soit en Hongrie ou dans d'autres pays de la région, où on construit à partir des subventions étatiques, des conglomérats, et des on encourage la presse qui véhicule le discours du pouvoir, que ce soit la presse écrite, la radio ou la télévision, Donc par les moyens économiques, par les moyens de l'économie du marché, en fait, on crée des inégalités de fait qui finissent par
faire taire les oppositions en particulier, ou la liberté de la presse, effectivement. Gianni Buchiccio, est-ce que vous pensez que la situation que l'on connaît aujourd'hui, cette situation de tension entre pays d'Europe centrale et le reste de l'Europe autour de ces questions d'état de droit, puisse arriver à bloquer, par exemple, ce plan de relance européen dont on a tous besoin, l'Italie, la France, l'Espagne et bien d'autres pays ont besoin de cet argent, si le veto que veulent mettre justement à la fois la Hongrie et la Pologne et peut-être d'autres pays des 27 était appliqué, eh bien on ne pourrait pas débloquer ces sommes, par exemple. Est-ce que vous le craignez?
Je le crains, mais j'espère que ce ne sera pas le cas. Et donc, la dépêche que vous avez citée tout à l'heure concernant l'accord préliminaire qui a été conclu entre les négociateurs du Parlement européen et la présidence du Conseil européen est, disons, une bonne voie de sortie. Maintenant, cet accord doit être plus amplement ratifié et j'espère qu'il pourra entrer en vigueur. Et de cette façon, très probablement, on arrivera à surmonter les éventuels blocages de la part de deux ou d'autres pays, n'est-ce pas? Parce que, apparemment, dans cet accord, il est prévu que la Commission peut demander au Conseil de suspendre l'érogation des fonds de relance pour un pays déterminé lorsqu'il ne respecte pas les critères de l'état de droit, notamment l'indépendance du système judiciaire. Et le Conseil doit adopter ça à une majorité de 2/3 et tous les États membres d'ailleurs doivent ratifier cet accord à la majorité de 2/3 ou à 65% de la population européenne. Donc ce qui laisse une marge assez importante pour que finalement cet accord entre en vigueur et surtout pour imposer des sanctions financières, évidemment, aux pays qui n'acceptent pas l'état de droit. Vous savez, au fond, on a essayé par différents moyens de faire respecter l'état de droit partout en Europe. Mais finalement, le moyen le meilleur, c'est le portefeuille. On va dans la bonne direction.
Max Erwan Gastino, à l'instant même, Roman Krakowski disait effectivement que votre livre qui s'intitule Le Nouveau Procès de l'Est tentait de dire que ces démocraties illibérales d'Europe centrale pouvaient nous donner, disons, un modèle. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée que vous défendez? C'est vrai, dans votre livre, il y a là, disons, un romantisme, la question de l'héritage de la dissidence antitotalitaire, le combat contre l'ordre libéral, tout cela. Une petite minute pour nous répondre sur cette question-là.
Oui, alors je ne dis pas qu'il s'agit d'un modèle, je dis qu'en effet, ils interrogent les limites de la démocratie libérale contemporaine. Parce que la démocratie, ce sont des contre-pouvoirs, absolument, mais c'est aussi la capacité d'action d'un corps collectif, d'un corps social. Et je crois que notamment sur le terrain économique, mais sur d'autres sujets également, l'Europe centrale a mis en place des institutions et des réformes qui ont permis à ces États de consolider à la fois la cohésion du corps social et la capacité d'action du politique. Et je crois que en mettant l'accent sur l'autorité du politique et la cohésion du corps social, ils nous interrogent sur nos propres démocraties, puisque ces démocraties, les démocraties de l'Ouest et notamment la démocratie française, fait face aujourd'hui à des difficultés, à une certaine impuissance publique sur le terrain économique et le terrain migratoire, et face aussi à un processus d'archipélisation, pour reprendre le terme de Jérôme Fourquet, qui, je crois, ne mène pas à un avenir forcément radieux, la démocratie reposant avant tout aussi sur un peuple qui a conscience de lui-même et qui est donc transcendé par des idéaux collectifs.
On voit bien qu'on pourrait revenir sur ce sujet à d'autres occasions dans ce temps du débat. Je vous remercie tous les trois. Gianni Buchiccio, vous êtes président de la Commission de Venise. Roman Krakowski, vous êtes auteur du Populisme en Europe centrale et orientale, un excellent livre d'histoire paru dans la collection Fayard Histoire. Et Max Erwan Gastino, auteur du Nouveau Procès de l'Est aux éditions du CERF. C'était le temps du débat. Chloé Cambrelin, Hugo Boursier, Fanny Richer, Rémi Baille et Imanjin. Un grand merci à Laurie Vachon, à la technique et à Alexandre Manzanares à la réalisation. Si vous, ça sera le temps du débat exceptionnel du vendredi, excusez-moi, la conversation mondiale qui portera sur notre rapport à la nature avec Marie-Hélène Parizeau qui est professeure à la faculté de philosophie de l'Université de Laval au Canada et l'écrivain Alexis Génie, prix Goncourt 2011 et auteur cette année de J'aurais pu devenir millionnaire, j'ai choisi d'être vagabond. Tous les deux dialogueront juste sur la question de la nature dans ce début de 21e siècle. Dans 3 minutes, vous allez retrouver Affaires culturelles avec Arnaud Laporte et ce soir Emmanuel de Marcimotin. Vous écoutez France Culture, il est 19h.